Joris Karl Huysmans, En route, deuxième partie, chapitre 2. Il vécut la plus épouvantable des nuits. Ce fut si spécial, si affreux, qu'il ne se rappelait pas pendant toute son existence avoir enduré de pareilles angoisses, subi de semblables transes. Ce fut une succession ininterrompue de réveils en sursaut et de cauchemars. Et ces cauchemars dépassaient à les limites des abominations que les démences les plus périlleuses rêvent. Ils se déroulaient sur les territoires de la luxure, et ils étaient si particuliers, si nouveaux pour lui, qu'en se réveillant, Durtal resté tremblant, retenait un cri. Ce n'était plus du tout l'acte involontaire et connu, la vision qui cesse juste au moment où l'homme endormi étreint la forme amoureuse et va se fondre en elle. C'était ainsi et mieux que dans la nature, long, complet, accompagné de tous les préludes, de tous les détails, de toutes les sensations, et le déclic avait lieu, avec une acuité douloureuse extraordinaire, dans un spasme de détente inouïe. Et, fait bizarre, et qui semblait marquer la différence entre cet état et le stupre inconscient des nuits, c'était, en outre, de certains épisodes où des caresses qui ne pourraient que se succéder dans la réalité étaient réunies, au même instant dans le rêve, la sensation nette, précise d'un être, d'une forme fluidique, disparaissant avec le bruit sec d'une capsule ou d'un coup de fouet, d'auprès de vous, dès le réveil. Cet être, on le sentait distinctement près de soi, si près que le linge, dérangé par le souffle de sa fuite, ondulé et que l'on regardait effaré la place vide. « Ah ça, mais !» se dit Durtal quand il eut allumé la bougie. « Cela me reporte au temps où je fréquentais Madame Chantelouve. Cela me réfère aux histoires du succubat. » Il restait ahuri sur son séant, scruté avec un véritable malaise cette cellule noyée d'ombre. Il consulta sa montre, il n'était que 11 heures du soir. « Mon Dieu » fit-il, « si les nuits sont ainsi que celles-là dans les cloîtres. » Il recourut pour se remettre à des affusions d'eau froide, ouvrit la fenêtre pour renouveler l'air et, glacé, se recoucha. Il hésitait à souffler la bougie, inquiet de ces ténèbres qui lui paraissaient habitées, pleins d'embûches et de menaces. Il se décida enfin à éteindre et répéta la strophe des complis que l'on avait chantée le soir même à la chapelle. « Procul recedant somnia, et noxium phantasmata. » Ostemque nostrum comprime, ne polluantur corpora. Il finit par s'assoupir, rêva encore d'immondices, mais il se reprit à temps pour rompre le charme, éprouva encore cette impression du nombre, s'évaporant à temps pour qu'on ne puisse la saisir dans les draps, et il interrogea sa montre. Il était 2 heures. Si cela continue, je serai brisé demain, se dit-il. Il parvint tant bien que mal, en somnolant et en se détirant toutes les 10 minutes, à atteindre 3 heures. « Si je me rendors, je ne me réveillerai pas au moment voulu, pensa-t-il, si je me levais. » Et il sauta en bas du lit, s'habilla, pria, mit de l'ordre dans ses affaires. D'authentiques excès l'eussent moins abattu que cette fosse équipée, mais ce qui lui semblait surtout odieux, c'était l'inassouvissement que laissait le viol terminé de ses larves. Comparé à leurs avides manigances, les caresses de la femme n'épandaient qu'une volupté tempérée, n'aboutissait qu'à un faible choc. Seulement, dans le succubat, l'on restait enragé de n'avoir étreint que le vide, d'avoir été la dupe d'un mensonge, le jouet d'une apparence dont on ne se rappelait même plus les contours et les traits. On en arrivait, forcément, à désirer de la chair, à souhaiter de presser contre soi un véritable corps, et Durtal se mit à songer à Florence. Elle, vous désaltérez au moins, ne vous quittez pas ainsi, pantelant et fiévreux, en quête d'on ne savait quoi, dans une atmosphère où l'on était environné, épié, par un inconnu qu'on ne pouvait discerner, par un simulacre que l'on ne pouvait fuir. Puis, Durtal se secoua, voulut repousser l'assaut de ses souvenirs. « Je vais pouvoir, se dit-il, aller respirer de l'air frais et fumer une cigarette. Nous verrons après. » Il descendit l'escalier, dont les murs paraissaient ne pouvoir tenir en place, et dansait avec la lueur de la bougie. Enfila les corridors, souffla et déposa son lumignon près de l'auditoire, et s'élança dehors. Il faisait nuit noire. À la hauteur d'un premier étage, un œil de bœuf ouvert dans le mur de l'église trouvait les ténèbres d'une lune rouge. Durtal tira quelques bouffées d'une cigarette, puis il s'achemina vers la chapelle. Il tourna doucement le loquet de la porte, le vestibule où il pénétrait était sombre. mais la rotonde, bien qu'elle fût vide, était illuminée par de nombreuses lampes. Il fit un pas, se signa et recula, car il venait de heurter un corps. Il regarda à ses pieds. Il entrait dans un champ de bataille. Par terre, des formes humaines étaient couchées dans des attitudes de combattants fauchés par la mitraille, les uns à plat ventre, les autres à genoux. Celle-ci affaissée les mains par terre comme frappée dans le dos, celle-là étendue, les doigts crispés sur la poitrine, celle-là encore se tenant la tête ou tendant les bras. Et de ce groupe d'agonisants ne se levait aucun gémissement, aucune plainte. Durtal contemplait stupéfié ce massacre de moines, et il resta soudain bouche béante. Une écharpe de lumière tombée d'une lampe que le père sacristain venait de déplacer dans la rotonde, et traversant le porche, elle éclairait un moine à genoux devant l'autel voué à la Vierge. C'était un vieillard de plus de 80 ans. Il était immobile ainsi qu'une statue, les yeux fixes, penchés dans un tel élan d'adoration que toutes les figures extasiées des primitifs paraissaient près de la sienne, efforcées et froides. Le masque était pourtant vulgaire, le crâne ras, sans couronne, hâlé par tous les soleils et par toutes les pluies, avait le ton des briques. L'œil était voilé, couvert d'une taie par l'âge, le visage plissé, ratatiné, culotté tel qu'un vieux buis, s'enfonçait dans un taillis de poils blancs, et le nez un peu camus, achevait de rendre singulièrement commun l'ensemble de cette face. Et il sortait, non des yeux, non de la bouche, mais de partout et de nulle part, une sorte d'angélité qui se diffusait sur cette tête, qui enveloppait tout ce pauvre corps, courbé dans un tas de loques. Chez ce vieillard, l'âme ne se donnait même pas la peine de réformer la physionomie, de l'annoblir. Elle se contentait de l'annihiler en rayonnant. C'était en quelque sorte le nimbe des anciens saints, ne demeurant plus autour du chef, mais s'étendant sur tous ses traits, baignant, apâli, presque invisible, tout son être. Et il ne voyait et n'entendait rien. Des moines se traînaient sur les genoux, venaient pour se réchauffer, pour s'abriter auprès de lui, et il ne bougeait, muet et sourd, assez rigide pour qu'on pût le croire mort si par instant la lèvre inférieure n'eût remué, soulevant dans ce mouvement sa grande barbe. L'aube blanchit les vitres, et dans l'obscurité qui commençait à se dissiper, les autres frères apparurent à leur tour à Durtal, tous ces blessés de l'amour divin, priaient ardemment, jaillissaient hors d'eux-mêmes, sans bruit, devant l'autel. Il y en avait de tout jeunes à genoux, et le buste droit, d'autres les prunelles en extase, repliés en arrière et assis sur leurs talons, d'autres encore faisaient le chemin de croix, et souvent ils étaient posés, les uns devant les autres, face à face, et ils se regardaient sans se voir, avec des yeux d'aveugle. Et parmi ces convers, quelques pères ensevelis dans leurs grandes coules blanches, gisaient, prosternés, baisaient la terre. Oh, priez! « Priez comme ces moines !» s'écria Durtal. Il sentait son malheureux être se détendre dans cette atmosphère de sainteté. Il se dénoua et il s'affaissa sur les dalles, demandant humblement pardon au Christ, de souiller par sa présence la pureté de ce lieu. Et il pria longtemps, se décelant pour la première fois, se reconnaissant si indigne, si vil, qu'il ne pouvait comprendre comment, malgré sa miséricorde, le Seigneur le tolérait dans le petit cercle de ses élus. Il s'examina, vit clair, s'avoua qu'il était inférieur au dernier de ses convers, qui ne savait peut-être même pas épeler un livre, comprit que la culture de l'esprit n'était rien, et que la culture de l'âme était tout, et peu à peu, sans s'en apercevoir, ne pensant plus qu'à balbutier des actes de gratitude, il disparut de la chapelle, l'âme emmenée par celle des autres hors du monde, loin de son charnier, loin de son corps. Dans cette chapelle, l'élan était enfin consenti, la projection jusqu'alors refusée était enfin permise. Il ne se débattait plus de même qu'au temps où il parvenait si difficilement à s'évader de sa geôle à Notre-Dame des Victoires et à Saint-Séverin. Puis il réintégra cette chapelle où son animalité était demeurée seule, et il regarda étonné autour de lui, la plupart des frères étaient partis. Un père, resté prostré devant l'autel de la Vierge, il le quitta à son tour et regagna la rotonde où les autres pères entraient. Durtal les observa. Il y en avait de toutes les tailles, de toutes les sortes, un gros chauve à longue barbe noire et à bésicle, des petits blonds et bouffis, de très vieux hérissés de poils de sanglier, de très jeunes ayant de vagues airs de rêveurs allemands, avec leurs yeux bleus sous des lunettes, et presque tous, sauf les très jeunes, avaient ce trait commun, le ventre gonflé et les joues sillonnées de vermicelle rose. Et soudain, par la porte ouverte dans la rotonde même, le grand moine qui conduisait la veille l'office parut. Il renversa sur sa chasuble un capuchon de toile qui lui couvrait la tête, et assisté de deux moines blancs, il monta au maître-autel pour célébrer la messe. Et ce ne fut pas une de ces messes gargotées, comme l'on en cuisine tant à Paris, mais une messe lente et méditée, profonde, une messe où le prêtre consacre longuement, abîmé devant l'autel, et quand il éleva l'hostie, aucune sonnette ne tinta, mais les cloches du monastère épandirent des volées espacées, des coups brefs, sourds, presque plaintifs, tandis que les trappistes disparaissaient, tapis à quatre pattes, la tête cachée sous leur pupitre. Quand la messe prit fin, il était près de 6 heures. Durtal refit le chemin de la veille au soir, passa devant la petite fabrique de chocolat qu'il avait longée, avisa au travers des vitres des pères qui enveloppaient des tablettes dans du papier de plomb, puis dans une autre pièce, une minuscule machine à vapeur que modérait un convert. Il gagna cette allée où il avait fumé des cigarettes dans l'ombre, si triste la nuit, elle était maintenant charmante, avec ses deux rangées de très vieux tilleuls qui bruissaient doucement, et le vent rabattait sur Durtal leur languissante odeur. Assis sur un banc, il embrassait d'un coup d'œil la façade de l'abbaye. Précédé d'un long potager où çà et là des rosiers s'épanouissaient au-dessus des vasques bleuâtres et des boules veinées des choux, cet ancien château bâti dans le goût monumental du XVIIe siècle s'étendait solennel et immense, avec ses 18 fenêtres d'affilée et son fronton dans le tympan duquel était logée une puissante horloge. Il était coiffé d'ardoises, surmonté d'un jeu de petites cloches, et l'on y accédait par un perron de plusieurs marches. Il arborait une altitude d'au moins 5 étages, bien qu'il n'eût en réalité qu'un rez-de-chaussée et un premier. Mais à en juger par l'élévation inattendue des fenêtres, les pièces devaient se plafonner à des hauteurs démesurées d'église. Somme toute, cet édifice était emphatique et froid, plus apte, puisqu'on l'avait converti en un couvent, à abriter des adeptes de Jansénus que des disciples de Saint Bernard. Le temps était tiède ce matin-là, le soleil se tamisait dans le crible remué des feuilles, et le jour, ainsi bluté, se muait au contact du blanc en rose. Durtal, qui s'apprêtait à lire son paroissien, vit les pages rosir, et par la loi des complémentaires, toutes les lettres imprimées à l'encre noire se teindre en vert. Il s'amusait de ces détails, s'épanouissait le dos au chaud dans cette brise chargée d'arômes, se reposait dans ce bain de lumière des fatigues de la nuit. Quand au bout de l'allée, il aperçut quelques frères. Ils marchaient silencieux les uns portant sous un bras de grands pains ronds, les autres tenant des boîtes au lait ou des mannes pleines de foin et d'œufs. Ils défilèrent devant lui et le saluèrent respectueusement. Tous avaient la mine joyeuse et grave. « Ah, les braves gens, se dit-il, ceux qu'ils m'ont ce matin aidé, car c'est à eux que je dois d'avoir pu ne pas me taire, d'avoir pu prier, d'avoir enfin connu la joie de l'oraison qui n'était pour moi à Paris qu'un leurre. À eux et surtout à Notre-Dame de l'Âtre qui a eu pitié de mon pauvre être. » Il bondit de son banc dans un élan d'allégresse, s'engagea dans des allées latérales, atteignit la pièce d'eau qu'il avait entrevue la veille. Devant elle se dressait la formidable croix qu'il avait distinguée de loin du haut de la voiture, dans les bois, avant que d'arriver à la trappe. Elle était plantée en face du monastère même et tournait le dos à l'étang. Elle supportait un Christ du XVIIIe siècle, grandeur nature, en marbre blanc. Et l'étang affectait lui aussi la forme d'une croix, telle qu'elle figure sur la plupart des plans des basiliques. Et cette croix brune et liquide était granulée de pistaches par des lentilles d'eau que déplaçait en nageant le cygne. Il vint au-devant de Durtal et il tendit le bec, attendant sans doute un bout de pain. Et pas un bruit ne surgissait de ce lieu désert, sinon le craquement des feuilles sèches que Durtal froissait en marchant. L'horloge sonna 7 heures. Il se rappela que le déjeuner allait être servi et il se dirigea à grands pas vers l'abbaye. Le père Étienne l'attendait, il lui serra la main, lui demanda s'il avait bien dormi, puis « Qu'allez-vous manger? Je n'ai que du lait et du miel à vous offrir. J'enverrai aujourd'hui même au village le plus proche pour tâcher de vous procurer un peu de fromage, mais vous allez subir une triste collation ce matin. Durtal proposa de substituer du vin au lait et déclara que ce serait pour le mieux ainsi. « J'aurai dans tous les cas mauvaise grâce à me plaindre, » fit-il, « car enfin, vous maintenant, vous êtes à jeun. » Le moine sourit. « Pour l'instant, dit-il, nous faisons, à cause de certaines fêtes de notre ordre, pénitence. » Et il expliqua qu'il ne prenait de nourriture qu'une fois par jour, à 2 heures de l'après-midi, après none. « Et vous n'avez même pas pour vous soutenir du vin et des œufs. » Le père Étienne souriait toujours. « On s'y habitue, dit-il. » Qu'est-ce que ce régime en comparaison de celui qu'adoptèrent Saint Bernard et ses compagnons lorsqu'ils vinrent défricher la vallée de Clairvaux? Leur repas consistait en des feuilles de chêne salées, cuites dans de l'eau trouble. Et après un silence, le père reprit. Sans doute la règle des trappes est dure, mais combien elle est douce si nous nous reportons à ce que fut jadis en Orient la règle de Saint Pacôme. Songez donc. Celui qui voulait accéder à cet ordre restait 10 jours et 10 nuits à la porte du couvent, et il y essuyait tous les crachats, tous les affronts. S'il persistait à vouloir entrer, il accomplissait 3 années de noviciat. Habitait une hutte où il ne pouvait se tenir debout et se coucher de son long. Il ne se repaissait que d'olives et de choux, priait 12 fois le jour, 12 fois le soir et 12 fois la nuit. Le silence était perpétuel et les mortifications ne cessaient pas. Pour se préparer à ce noviciat et s'apprendre à dompter la faim, Saint Macaire avait imaginé d'enfoncer du pain dans un vase au col très rétréci, et il ne s'alimentait qu'à l'aide des miettes qu'il pouvait retirer avec ses doigts. Quand il fut admis dans le monastère, il se contenta de grignoter des feuilles de choux crus le dimanche. Hein, ils étaient plus résistants que nous, ceux-là. Nous n'avons plus, hélas, ni l'âme ni le corps assez solides pour supporter de tels jeûnes. Mais que cela ne vous empêche pas de goûter. Allons, bon appétit. Ah, pendant que j'y pense, reprit le moine, soyez à 10 heures précises à l'auditoire. C'est là que le père prieur vous confessera. Et il sortit. Durtal aurait reçu un coup de maillet sur la tête qu'il n'eût pas été mieux assommé. Tout l'échafaudage, si rapidement exaucé de ses joies, croula. Ce fait étrange avait lieu. Dans cet élan d'allégresse qui le portait depuis l'aube, il avait complètement oublié qu'il fallait se confesser. Et il eut un moment d'aberration. « Mais je suis pardonné, se dit-il. La preuve est cet état de bonheur que je n'ai jamais connu. Cette dilatation vraiment merveilleuse d'âme que j'ai ressentie dans la chapelle et dans les bois. L'idée que rien n'était commencé, que tout était à effectuer, l'effara. Il n'eut pas le courage d'avaler son pain. Il but une goutte de vin et dans un vent de panique, il se rua dehors. Il allait, affolé, à grands pas, se confesser. Le prieur, qui était le prieur? Il cherchait vainement parmi les pères, dont il se rappelait le visage, celui qui allait l'entendre. « Mon Dieu, » fit-il tout à coup, « mais je ne sais même pas comment l'on se confesse. » Il chercha un coin désert où il put se recueillir. Il arpentait alors, sans même savoir comment il y était venu, une allée de noyers que bordait un mur. Il y avait là des arbres énormes. Il se dissimula derrière le tronc de l'un d'eux, et assis sur la mousse, il feuilleta son paroissien, lut. En arrivant au confessionnal, mettez-vous à genoux, faites le signe de la croix, demandez la bénédiction du prêtre en disant « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. » Récitez ensuite le Confiteor jusqu'à « Mea culpa ». Et il s'arrêta, et sans même qu'il eût besoin de la sonder, sa vie bondit en dégât d'ordures. Il recula, il y en avait tant de toutes sortes qu'il s'abîma dans le désespoir. Puis il eut un effort de volonté, se reprit, voulut canaliser ses sources, les endiguer, les répartir pour s'y reconnaître, mais un affluent refoulait les autres, finissait par tout absorber, devenait le fleuve même. Et ce péché se montrait d'abord simiesque et sournois au collège où chacun s'attentait, écariait les autres. Puis c'était toute une jeunesse avide, traînée dans les estaminets, roulée dans les auges, vautrée dans les éviers des filles. Et c'était un âge mûr ignoble. Aux besognes régulières avaient succédé les avaries d'essence et de honteux souvenirs, l'assaillaient en foule. Il se rappelait la recherche de monstrueuses fraudes, la poursuite d'artifices aggravant la malice de l'acte. Et les complices, les agentes de ces déchéances, défilaient devant lui. C'était entre toutes, à un moment, une chantelouve, une adultère démoniaque qu'il avait précipité dans d'affreux transports, qu'il avait lié au crime sans nom des méfaits divins, au sacrilège. « Comment raconter cela à ce moine ?» se dit Durtal. terrifié par ce souvenir. Comment même s'exprimer pour se faire comprendre sans devenir immonde? Les pleurs lui jaillirent des yeux. « Mon Dieu » soupira-t-il, « c'est vraiment trop. » Et à son tour, Florence parut, avec son sourire de petit voyou et ses hanches de garçonne. « Je ne peux pourtant pas narrer au confesseur ce qui se brassait dans l'ombre parfumée de ses vices, » s'écria Durtal. « Je ne peux pourtant pas lui faire gigler à la face ses filets de pus, et dire qu'il va falloir faire cela, pourtant. » Et il s'appesantissait sur les turpitudes de cette fille trempée dès l'enfance dans les incestes, barattée dès sa puberté par des passions de vieillard sur les canapés désossés des marchands de vin. Quelle honte que d'avoir été rivé à celle-là, quelle dégoûtation que d'avoir satisfait aux abominables exigences de ses vœux. Et derrière cette sentine, d'autres s'étendaient. Tous les districts des péchés qu'énumérait patiemment le paroissien, il les avait traversés. Il ne s'était jamais confessé depuis sa première communion, et c'était avec l'entassement des années de successives alluvions de fautes. Et il pâlissait à l'idée qu'il allait détailler à un autre homme toutes ses saletés, lui avouer ses pensées les plus secrètes, lui dire ce qu'on ose se répéter à soi-même, de peur de se mépriser trop. Il en sua d'angoisse. Puis une nausée de son être, un remords de sa vie le souleva, et il se rendit. Le regret d'avoir si longtemps vécu dans ce cloaque le crucifia. Il pleura longtemps, doutant du pardon, n'osant même plus le solliciter, tant il se sentait vil. Enfin, il eut un sursaut. L'heure de l'expiation devait être proche. Sa montre marquait en effet 10 heures moins le quart. À se laminer ainsi, il avait agonisé pendant plus de 2 heures. Il rejoignit précipitamment la grande allée qui conduisait au monastère. Il marchait la tête basse, en refoulant ses larmes. Il ralentit un peu le pas lorsqu'il atteignit le petit étang. Il leva des yeux suppliants vers la croix, et les baissant, il rencontra un regard si ému, si pitoyable, si doux, qu'il s'arrêta. Et le regard disparut avec le salut du convert, qui continua son chemin. « Il a lu en moi, » se dit Durtal. « Oh, il a raison de me plaindre, le charitable moine, car vraiment ce que je souffre. Ah, Seigneur, être comme cet humble frère, » cria-t-il, se rappelant avoir remarqué le matin même, ce jeune et grand garçon, priant dans la chapelle, avec une telle ferveur qu'il semblait s'effuser du sol devant la Vierge. Il arriva dans un état affreux à l'auditoire et s'effondra sur une chaise. Puis, ainsi qu'une bête traquée qui se croit découverte, il se dressa et, perturbé par la peur, emporté par un vent de déroute, il songea à fuir, à aller chercher sa valise, à s'élancer dans un train. Et il se retenait indécis, tremblant, l'oreille aux aguets, le cœur lui battant à grands coups. Il écoutait des bruits lointains de pas. « Mon Dieu » fit-il, épiant ses pas qui se rapprochaient, « quel est le moine qui va entrer ?» Le pas se tut et la porte s'ouvrit. Durtal, terrifié, n'osa fixer le confesseur, en lequel il reconnut le grand trappiste, au profil impérieux, celui qu'il croyait être l'abbé du monastère. Suffoqué, il recula sans proférer un mot. Surpris de ce silence, le prieur dit « Vous avez demandé à vous confesser, monsieur. » Et sur un geste de Durtal, il lui désigna le prie-Dieu posé contre le mur, et lui-même s'agenouilla en lui tournant le dos. Durtal se roidit, s'éboula sur ce prie-Dieu et perdit complètement la tête. Il avait vaguement préparé son entrée en matière, noté des points de repère, classé à peu près ses fautes, il ne se rappelait plus rien. Le moine se releva, s'assit sur une chaise de paille, se pencha sur le pénitent, l'oreille ramenée par la main encornée, pour mieux entendre, et il attendit. Durtal souhaitait de mourir pour ne pas parler. Il parvint cependant à prendre le dessus, à réfréner sa honte. Il desserra les lèvres et rien ne sortit. Il resta accablé, la tête dans ses mains, retenant les larmes qu'il sentait monter. Le moine ne bougeait pas. Enfin, il fit un effort désespéré, bredouilla le commencement du confiteor et dit « Je ne me suis pas confessé depuis mon enfance. J'ai mené depuis ce temps-là une vie ignoble. J'ai... » Les mots ne vinrent pas. Le trappiste demeurait silencieux. Ne l'assistez point. J'ai commis toutes les débauches. J'ai fait tout, tout. » Il s'étrangla, et les larmes contenues partirent. Il pleura, le corps secoué, la figure cachée dans ses mains. Et comme le prieur, toujours penché sur lui, ne bronchait pas, « Mais je ne peux pas, cria-t-il, je ne peux pas !» Toute cette vie qu'il ne pouvait rejeter l'étouffait. Il sanglotait, désespéré par la vue de ses fautes, et atterré ainsi de se trouver ainsi abandonné, sans un mot de tendresse, sans un secours. Il lui sembla que tout croulait, qu'il était perdu, repoussé par celui-là même qu'il avait pourtant envoyé dans cette abbaye. Et une main lui toucha l'épaule, en même temps qu'une voix douce et basse disait « Vous avez l'âme trop lasse pour que je veuille la fatiguer par des questions. Revenez à 9 heures, demain, nous aurons du temps devant nous, car nous ne serons pressés à 7 heures par aucun office. D'ici là, pensez à cet épisode du calvaire. La croix, qui était faite de tous les péchés du monde, pesait sur l'épaule du Sauveur d'un tel poids que ses genoux fléchirent et qu'il tomba. Un homme de Cyrène passait là, qui aida le Seigneur à la porter. Vous, en détestant, en pleurant vos péchés, vous avez allégé, vous avez délesté, si l'on peut dire, cette croix du fardeau de vos fautes, et l'ayant rendue moins pesante, vous avez ainsi permis à notre Seigneur de la soulever. Il vous en a récompensé par le plus surprenant des miracles, par le miracle de vous avoir attiré de si loin ici. Remerciez-le donc de tout votre cœur et ne vous désolez plus. Vous réciterez aujourd'hui, pour pénitence, les psaumes de la pénitence et les litanies des saints. Je vais vous donner ma bénédiction. » Et le prieur le bénit et disparut. Durtal se releva à bout de larmes. Ce qu'il craignait tant était arrivé. Le moine qui devait l'opérer était impassible, presque muet, hélas, se dit-il. Mes abcès étaient mûrs, mais il fallait un coup de lancette pour les percer. Après tout, reprit-il en grimpant l'escalier pour aller se rafraîchir les idées dans sa cellule, ce trappiste a été compatissant à la fin, moins dans ses observations que dans le ton dont il les a prononcées. Puis, il convient d'être juste, il a peut-être été ahuri par mes larmes. L'abbé Gévrezin n'avait sans doute pas écrit au père Étienne que je me réfugiais à la trappe pour me convertir. Mettons-nous alors à la place d'un homme vivant, en Dieu, hors le monde, et auquel on décharge tout à coup une tinette sur la tête. Enfin, nous verrons demain. Et Durtal se hâta de se tamponner le visage, car il était près de 11 heures, et l'office de sexte devait commencer. Il se rendit à la chapelle, elle était à peu près vide, car les frères travaillaient à ce moment dans la fabrique de chocolat et dans les champs. Les pères étaient à leur place dans la rotonde, le prieur tira la cliquette, tous s'enveloppèrent d'un grand signe de croix, et à gauche, là où ils ne pouvaient voir, car Durtal s'était installé à la même place que le matin devant l'autel de Saint-Joseph, une voix monta. « Ave Maria gratia plena, Dominus tecum. » Et l'autre partie du chœur répondit « Et benedictus fructus ventris tui, Jésus. » Il y eut une seconde d'intervalle, et la voix pure et faible du vieux trappiste chanta comme avant l'office décompli la veille « Et Deus adjuvatorium meum intende ». Et la liturgie se déroula avec ses Gloria Patri, etc., pendant lesquelles les moines courbaient le front sur leurs livres et sa série de psaumes articulés sur un ton bref d'un côté et long de l'autre. Durtal, agenouillé, se laissait aller au bercement de la psalmodie, si las qu'il ne pouvait parvenir à prier lui-même. Puis quand Sexte se termina, tous les pères se recueillirent et Durtal surprit un regard de pitié chez le prieur qui se tourna un peu vers son banc. Il comprit que le moine implorait le Sauveur pour lui, suppliait peut-être Dieu de lui indiquer la manière dont il pourrait demain s'y prendre. Durtal rejoignit M. Bruno dans la cour, ils se serrèrent la main, puis l'oblat lui annonça la présence d'un nouveau convive. Un retraitant? Non, 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 un vicaire des environs de Lyon. Il reste un jour seulement, il est venu visiter l'abbé qui est malade. Je croyais d'abord que l'abbé de Notre-Dame-de-Lâtre était ce grand moine qui conduit l'office. Mais non, c'est le prieur, le père Maximin. Quant à l'abbé, vous ne l'avez pas vu, et je doute que vous puissiez le voir, car il ne sortira sans doute pas de son lit avant votre départ. Ils arrivèrent à l'hôtellerie, trouvèrent le père Étienne s'excusant auprès d'un prêtre gros et court de l'indigent régal qu'il apportait. Ce prêtre, haut très fort, modelé dans de la graisse jaune, était hilar. Il plaisanta M. Bruno, qu'il semblait connaître de longue date, sur le péché de gourmandise qui devait se commettre si fréquemment dans les trappes. Puis il huma, en simulant des gloussements d'allégresse, l'inodore bouquet du pauvre vin qu'il se versa. Enfin, lorsqu'il divisa avec une cuillère L'omelette qui composait le plat de résistance du dîner, il feignit de découper un poulet, s'extasiant sur la belle apparence de la chair, disant à Durtal : « Je vous affirme, monsieur, que c'est un poulet de grain, oserais-je vous en offrir une aile ?» Ce genre de plaisanterie exaspérait Durtal, qui n'avait avec cela aucune envie de rire ce jour-là. Aussi se borna-t-il à répondre par un vague salut, tout en souhaitant à part lui que la fin du repas fût proche. La conversation continua entre ce prêtre et M. Bruno. Après s'être disséminée sur divers lieux communs, elle finit par se concentrer sur une invisible loutre qui dévastait les étangs de l'abbaye. « Mais enfin, disait le vicaire, avez-vous au moins découvert le lieu où elle gîte ?»« Jamais. L'on distingue aisément, dans les herbes froissées, les chemins qu'elle parcourt pour se jeter dans l'eau, mais toujours à un endroit, on perd ses traces. Nous l'avons guettée avec le père Étienne pendant des journées, et jamais elle ne s'est montrée. » L'abbé expliqua divers pièges qu'il convenait de tendre. Durtal rêvait à cette chasse à la loutre, si plaisamment racontée par Balzac en tête de ses paysans, quand le dîner s'acheva. Le vicaire récita les grâces et dit à M. Bruno : « Si nous allions faire un tour, le bon air remplacera le café que l'on omet de nous servir. » Durtal regagna sa cellule. Il se sentait vidé, détrité, fourbu, réduit à cet état de filament, à l'état de pulpe, le corps concassé par les cauchemars de la nuit, énervé par la scène du matin, demandait à s'asseoir, à ne pas bouger, et si l'âme n'avait plus cet affolement qu'il avait brisé dans des sanglots au pied du moine, elle restait dolente et inquiète. Elle aussi demandait à se taire, à se reposer, à dormir. « Voyons, dit Durtal, il ne s'agit pas de se déserter, secours-nous. » Il lut les psaumes de la pénitence et les litanies des saints. Puis il hésita entre deux de ses volumes, entre Saint Bonaventure et Saint Angèle. Il se décida pour la Bienheureuse. Elle avait péché, s'était convertie. Elle lui semblait moins loin de lui, plus compréhensive, plus secourable que le docteur séraphique, que le saint toujours demeuré pur, à l'abri des chutes. N'avait-elle pas été, elle aussi, une scélérate charnelle ? N'était-elle pas également arrivée de bien loin vers le Sauveur ? Mariée, elle pratique l'adultère, et elle se dévergonde. Les amants se succèdent, et quand ils sont taris, elle les rejette comme des écales. Soudain, la grâce fermente en elle et lui fait éclater l'âme. Elle va se confesser, n'ose avouer les plus véhéments de ses péchés au prêtre, et elle communie, greffant ainsi le sacrilège sur ses autres fautes. Elle vit, jours et nuits, torturée par le remords, finit par supplier saint François d'Assise de la sauver, et la nuit suivante, le saint lui apparaît. « Ma sœur, dit-il, si vous m'aviez appelé plus tôt, je vous aurais exaucé déjà. » Le lendemain, elle se rend à l'église, écoute un prêtre qui parle en chair, comprend que c'est à celui-là qu'elle doit s'adresser, et elle s'ouvre pleinement, se confesse entièrement à lui. Alors commencent les épreuves d'une vie purgative atroce. Elle perd coup sur coup sa mère, son mari, ses enfants. Elle subit des tentations charnelles si violentes qu'elle en est réduite à saisir des charbons allumés et à cautériser par le feu la plaie même de ses sens. Pendant 2 années, le démon la tisonne. Elle distribue ses biens aux pauvres, revêt l'habit du tiers ordre de saint François, recueille les malades et les infirmes, mendie dans la rue pour eux. Un jour, un haut-le-cœur lui vient devant un lépreux, dont les croûtes soulevées infectent. Pour se punir de son dégoût, elle boit l'eau dans laquelle elle a lavé ses croûtes. Ses nausées la reprennent, elle se châtie encore en se forçant à avaler une écaille que cette eau n'a pu entraîner et qui lui est restée dans le gosier à sec. Pendant 2 années, elle pense des ulcères et médite sur la passion du Christ, puis son noviciat de douleur prend fin et le jour radieux des visions l'éclaire. Jésus la traite en enfant gâté, la cajole, la nomme ma très douce, ma très aimée fille. Il la dispense du besoin de manger, ne la nourrit qu'avec les espèces saintes. Il l'appelle, l'attire, l'absorbe dans la lumière incréée, lui permet par une avance d'ouarie de connaître vivante les joies du ciel. Et elle est si simple, si timide, que malgré tout elle a peur, car le souvenir de ses péchés l'alarme. Elle ne peut se croire pardonnée, elle dit au Christ, « Ah, je voudrais me mettre un collier de fer et me traîner sur la place publique pour crier mes hontes. » Et il la console et lui répète, « Rassure-toi, ma fille, j'ai compensé tes péchés par mes souffrances. » Et comme elle s'accuse encore d'avoir vécu dans l'opulence, Elle se reproche d'avoir raffolé de toilettes et de bijoux. Il lui dit en souriant, « Pour acheter tes richesses, j'ai manqué de tout. Il te fallait un grand nombre de robes, et moi je n'ai eu qu'un vêtement, et les soldats m'en dépouillèrent et le tirèrent au sort. Ma nudité fut l'expiation de ta vanité dans les parures. » Et tous les entretiens du Christ sont sur ce ton. Il passe son temps à réconforter cette humble que ses bienfaits accablent. Et elle est pourtant avec cela la plus amoureuse des saintes. Son œuvre est une série de libations spirituelles et de caresses. Il semble qu'à côté d'elle, les volumes des autres mystiques charbonnent, tant le foyer de ce livre est vif. Ah, se disait Durtal en feuilletant ses pages, c'est bien le Christ de Saint François, le Dieu de miséricorde, qui parle à cette franciscaine. Et il reprenait. Cela devrait me donner du courage, car enfin Angèle de Foligno a péché autant que moi, et toutes ses fautes lui furent cependant remises. Oui, mais aussi, quelle âme elle avait, tandis que la mienne n'est bonne à rien, au lieu d'aimer, elle raisonne. Il est juste de noter pourtant que la bienheureuse était dans de meilleures conditions que moi pour se rédimer. Elle vivait au XIIIe siècle, avait moins de chemin à faire pour aborder Dieu, car depuis le Moyen-Âge, chaque siècle nous éloigne de lui davantage. Elle vivait dans un temps plein de miracles et qui regorgeait de saints, et moi je vis à Paris, à une époque où les miracles sont rares, où les saints ne foisonnent guère. Puis, une fois parti d'ici, je vais m'amollir, me diluer encore dans l'infâme étuvée, dans le bain de péché des villes. Quelle perspective! À propos, il regarda sa montre et tressauta. Il était 2 heures. J'ai manqué l'office de nonne, se dit-il. Décidément, il faut que je simplifie l'horaire compliqué de ma pancarte. Sans cela, je ne m'y reconnaîtrai jamais. Et il le traça en effet en quelques lignes. Matin, levé à 4 heures, ou plutôt à 3h30. Déjeuner à 7 heures, sexte à 11 heures, dîner à 11h30, nonne à 1h30, vêpres à 5h15, souper à 6, et compli à 7h25. Là, c'est clair au moins et facile à retenir. Pourvu maintenant que le père Étienne n'ait pas remarqué mon absence à la chapelle. Il quitta sa chambre. Ah, voici le fameux règlement, se dit-il, en considérant un tableau encadré, pendu sur le palier. Et il s'approcha et lut. Règlement de messieurs les hôtes. Il se composait de nombreux articles et débutait par ces mots. On prie humblement ceux que la divine providence conduira dans ce monastère d'agréer qu'on les avertisse des choses suivantes. On évite en tout temps la rencontre des religieux et des frères convers. On n'approche pas du lieu où ils travaillent. Il est interdit de sortir de la clôture pour aller à la ferme ou aux environs du monastère. Puis venait une série de recommandations qui figuraient déjà dans le nota des horaires imprimés sur les pancartes. Durtal sauta plusieurs paragraphes et lut encore. Messieurs les hôtes sont priés de ne rien écrire sur les portes, de ne pas frotter d'allumettes au mur, de ne pas jeter d'eau sur le plancher. On ne peut aller d'une chambre à l'autre pour visiter son voisin ou lui parler. On ne peut fumer dans la maison. Et dehors non plus, pensa Durtal, j'ai pourtant bien besoin d'allumer une cigarette. Et il descendit. Il se heurta dans le couloir au père Étienne, qui lui fit aussitôt observer qu'il ne l'avait pas vu à sa place pendant l'office. Durtal s'excusa de son mieux. Le moine n'insista pas, mais Durtal comprit qu'il était surveillé et se rendit compte que, sous ses allures, bon enfant, l'hôtelier devait, dès qu'il s'agissait de discipline, vous serrer la gorge dans un garrot de fer. Il n'en douta plus lorsqu'à l'heure des vêpres, il s'aperçut que le premier regard du moine en entrant dans la chapelle était pour lui. Il était si veule, si endolori ce jour-là, qu'il ne s'en occupa guère. Ce changement brusque d'existence, ces heures de sa vie habituelle, si complètement transformées, elle a hérissé, et de sa crise du matin, il avait conservé une sorte de torpeur qui lui brisait tout ressort. Il vécut cette fin de journée à la dérive, ne pensant plus à rien, dormant debout. Et quand le soir fut venu, il s'écroula sur son lit, comme une masse.